Vivacité, ma radio complicité. Jusqu'à 14h30 sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré.
Bonjour à tous et bienvenue en cette dernière semaine de la saison de la vie du bon côté. Ensuite, quartier d'été, hein, voilà. Avion ou pas avion, de toute façon, vacances pour beaucoup d'entre nous. Et puis, l'émission reprendra à la fin du mois d'août, bien sûr. Alors, nous allons aujourd'hui nous libérer de la peur de l'avion, si ça vous concerne, bien entendu. Même si statistiquement, rationnellement, l'avion est le moyen le plus sécurisé, le moyen de transport le plus sécurisé. Bon nombre de personnes ont peur de le prendre. De la simple appréhension à l'attaque de panique, des solutions existent. Pour profiter de ce voyage en toute sérénité, nous verrons aujourd'hui qu'il existe différentes peurs aussi, ce qui se cache derrière chacune d'elles et les différents moyens pour y parer. Avant toute chose, rappelons que nous ne sommes pas tous égaux devant la peur de l'avion. Attention aussi à ce que les parents communiquent à leurs enfants, à ce qu'on communique de toute façon, d'une façon générale. Hein. Quand on dit « Ouh, tu prends l'avion !» On a déjà compris que je vais peut-être parler d'autre chose avec cette personne-là parce qu'elle va peut-être m'insuffler sa peur. J'ai envie de vous faire parler des circonstances de vos premiers vols. Est-ce que vous souvenez de vos premiers vols? Est-ce que vous reconnaissez que ça a été un bon vol ou un pas bon vol? Est-ce que ça a eu des répercussions pour la suite? Vos expériences personnelles. Comment vous prenez l'avion? À quoi vous pensez quand vous êtes là-bas au-dessus? Je veux dire à tout, sauf évidemment le fait que vous êtes au-dessus. Certains souvenirs marquants peut-être qu'il vous reste. Importante question aussi à vous poser, sur quoi peut porter votre peur? Si à un moment donné vous devez avoir peur, comment est-ce que vous définiriez cette peur? Allez, 070 23 33 23, 30 centimes par minute si vous nous appelez, 50 centimes par message envoyé au 3063. Et à ce moment-là, c'est nous qui vous rappelons, bien sûr.
La vie du bon côté.
Comme je l'ai dit il y a quelques minutes, Marie-Pierre Preud'homme, hypnothérapeute, sait de quoi elle parle parce qu'elle a eu très très peur de l'avion. Elle n'a pas eu peur et puis elle n'a plus eu peur.
Voilà, donc j'ai eu l'impression quand j'ai pris mon premier vol que ça allait être une expérience, ce n'est pas spécifiquement d'appréhension.
Ouais.
Et puis en fait, j'ai vraiment eu très très peur.
Panique, carrément
Oui, vraiment, très très gros malaise,
ah oui.
Mal-être.
Carrément.
Très très mal, vraiment très très mal.
Ouais.
Moi, l'origine de la peur, c'est qu'enfant, j'ai beaucoup entendu que l'avion, c'était vraiment dangereux. C'était le discours de mon grand-père, et puis on peut le comprendre. Hein.
Ouais.
Voilà, c'est une génération qui n'a pas... qui est dans une découverte de tous ces moyens de transport, et où la sécurisation n'était absolument pas telle qu'elle est actuellement. Donc moi, ayant beaucoup entendu ça enfant, je pense que j'ai été très fortement impactée par ça. Donc j'ai eu très très peur de l'avion, je me suis guérie de la peur de l'avion. Et puis, une belle rechute où, à nouveau, j'ai eu vraiment très, très peur.
À cause d'un vol?
À cause de
perturbations en vol ou pas du tout?
Même pas. Et c'est cette rechute, justement, qui m'a fait comprendre comment s'en sortir réellement. Et actuellement, quand j'accompagne des personnes qui sont dans cette peur, mais avec ce qu'on met en place, généralement, elles sont libérées, vraiment bien libérées.
Et elles arrivent à parler de leur peur? Elles arrivent vraiment à mettre des mots sur leur peur? À part dire, bah oui, mais on est là-bas et on peut s'écraser d'un moment à l'autre.
Voilà.
Il y a d'autres choses qui viennent.
Donc, parfois, la peur est assez... Elle est tout à fait enveloppante, elle n'est pas précise.
Ouais.
J'ai peur, je ne sais même pas de quoi j'ai peur. Ouais. Et par contre, il y a d'autres personnes qui expriment beaucoup plus clairement, comme vous le disiez, où il y a cette peur de tomber. C'est vrai que si on n'est pas ingénieur, c'est un peu difficile à comprendre comme concept.
Comment ça tient en l'air, c'est sûr. Bon, on va essayer de voir avec nos auditeurs qu'est-ce qui se cache derrière leur peur, encore une fois. Si vous aviez peur et que vous n'avez plus peur, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour ne plus avoir peur? Venez nous parler de votre non-peur depuis toujours ou de votre peur depuis toujours en disant non, Sylvie, voilà pourquoi je ne prendrai jamais l'avion. Parce que c'est pas possible, parce que. Venez nous dire que ça vous gâche quand même une partie de la vie, parce que les autres membres de la famille veulent prendre l'avion et vous pas. Donc, ça veut dire que vous devez aller les rejoindre en voiture. Moi, j'en connais qui font beaucoup de kilomètres comme ça en disant « Oui, mais non, mais toi, tu pars en avion et moi, je vais te rejoindre en voiture ou en autre moyen de locomotion. » Comment ça se passe? 30,63, 50 centimes par message envoyé. Se libérer de la peur de l'avion. Voilà. Et puis, c'est Renaud qui nous accompagne au niveau musique avec Toujours Debout. Avec Toujours Debout, et il répète plusieurs fois toujours vivant dans la chanson, à mon avis. Il y a des personnes qui, quand elles doivent atterrir, se disent « Ah, je suis toujours vivant !»
D'où les applaudissements.
D'où les applaudissements. Oui, c'est toujours particulier, oui. Les applaudissements. « Ah, oh, on applaudit, vite, on est bien arrivé !» Oui, comme si, c'est vrai que ça fait toujours rire, en fait, c'est vrai, les applaudissements. C'est souvent aussi parce que l'avion est à l'heure.
Oui,
c'est
oui.
Ça aussi qu'on applaudit. Bon, 070 23 33 23, SMS 30 63, applaudissements. Quand l'avion se pose. Comment vous faites justement, vous, pour ne pas avoir peur de l'avion? Est-ce que vous avez travaillé cette peur? Voilà, c'est ça qui nous intéresse de savoir. C'est Michele dans quelques instants qui va intervenir. Il va nous dire que lui dort. Alors, je ne sais pas si on l'assomme ou quoi, mais en tout cas, il dort. Et je vois le message d'Aline sur la page Facebook. J'ai 38 ans, Sylvie. Tous les ans, je dis l'année prochaine, on part en avion. Et puis, à la dernière minute, je réserve mes vacances en voiture. Je pense qu'il faudra m'assommer pour être sûre de me mettre dedans. Pourtant, j'aimerais tant profiter de magnifiques paysages et de magnifiques pays. Mais la peur m'envahit, dit Aline. Et ben, j'espère que vous nous écoutez, Aline. Je pense que vous êtes sur votre lieu de travail pour justement avoir quelques pistes de réflexion. Voilà, pour essayer vraiment de vous motiver pour que l'année prochaine, ça soit sûr. Michele, dans quelques instants, affirme justement que lui dort sans problème.
La vie du bon côté sur Vivacité.
Bon, la peur de l'avion, on en parle avec Marie-Pierre Prudhomme. Et c'est vrai qu'on rigole aussi. Non seulement il y a des applaudissements, mais parfois il y a la petite vouvouzella là. Qui fait...
Très typique.
Et c'est là qu'on applaudit. Ouais, goal. C'est là qu'on applaudit. Enfin voilà. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs peurs qui existent derrière ça. Ça handicape vraiment fortement. Enfin, vous en avez dans votre patientèle, alors.
Oui,
les personnes
qui
viennent vous dire, vous êtes hypnothérapeute, j'ai entendu dire que l'hypnose, et on parlera un petit peu d'hypnose, bien sûr, mais d'autres choses.
Oui.
Car c'est sûr que c'est un moyen, peut-être, assez moderne.
De sortir, justement, de cette auto-hypnose négative qui est la peur de l'avion, comme n'importe quelle peur.
Ouais.
Il y a vraiment un auto-conditionnement et on entretient ça, évidemment, pas volontairement, mais on entretient cette peur et on va rassembler tout un tas d'informations à l'extérieur de soi. Donc, il me semble que l'hôtesse a l'air paniquée.
Oui, c'est ça qu'ils vont venir confirmer. Ah ben oui, ça, c'est sûr.
Ouais. Regarde comme elle fait, ça fait trois fois qu'elle regarde l'autre, il va se passer quelque chose.
Le commandant de bord qui parle, on n'entend rien. On n'entend rien du tout, on comprend rien du tout. Alors on se dit, mais qu'est-ce qu'il dit?
Qu'est-ce qu'il dit?
À qui il parle?
À qui il parle au final? Il essaye de faire passer un message codé.
On se dit ça quand même. Hein. Regarde l'aile, elle a l'air de bouger. Enfin, oui, c'est vrai que. Une fois qu'on entre là-dedans, c'est difficile. Moi, parfois, je refuse de prendre l'avion avec des personnes qui ont peur parce que je me dis, je ne sais pas comment ils vont. Et s'ils me transmettent leur peur.
Oui, alors, ce qui est intéressant, la dernière fois que j'ai pris l'avion, c'était en revenant d'Italie. En décollant, il y a la personne qui était juste à côté de moi, de l'autre côté du couloir, qui me fait signe qu'elle a peur. Et là, directement, j'ai commencé à parler avec et à faire ce qu'il fallait pour l'apaiser. C'est quand on est en contact avec
votre métier, hein.
Quelqu'un qui a peur, même égoïstement, si on n'est pas à l'aise, le fait d'apaiser l'autre, il ne faut pas le laisser rentrer dans son discours ou dans son monologue de panique, mais le fait d'apaiser l'autre, de le rassurer, de l'inviter à respirer, de faire certaines choses et de quelque part le guider, va aussi permettre de ne pas sentir sa peur quand on est avec un enfant ou son enfant qui est à rassurer. Ouais. Le fait d'être dans une certaine fermeté et une certaine confiance, même apparente, même si on n'a pas vraiment confiance, ça va faire en sorte qu'on transmet à l'autre et aussi on se persuade soi-même.
Vous direz à nos auditeurs quand est-ce que vous êtes libre, hein, cet été, comme ça on vous engagera pour prendre l'avion.
Voilà. Pour certains vols.
Marie-Pierre, elle accompagne, elle peut faire 2-3 vols par jour, hein, sans aucun souci. Voilà, je vais les coordonner. Michele, bonjour, bienvenue dans cette émission.
Bonjour.
Bonjour.
On vous réveille. Moi, j'ai pas eu la première partie de votre message, juste la dernière qui m'apprend que c'est parfois l'hôtesse de l'air qui doit venir vous réveiller à l'atterrissage.
Oui, c'est bien ça. Alors en plus, comble du hasard, j'ai sur l'aéroport de Charleroi. Sur le parking, j'attends ma compagne qui va atterrir d'un moment à l'autre.
Génial, voilà. Génial. Et quoi, ça veut dire que vous êtes complètement cool, quoi, rassuré, oui.
Oui, en fait, donc, ma compagne et future épouse est italienne, moi je suis belge, et donc ça fait 4 ans qu'on se connaît, et je me suis organisé avec mon travail, et donc je faisais 2 semaines en Belgique, 1 semaine en Italie. Okay, donc je prenais l'avion 6 à 8 fois par mois, et donc moi, je suis complètement décontracté, je dors dans l'avion, et quelquefois l'hôtesse de l'air, malgré les turbulences lors de l'atterrissage, je viens me réveiller pour me dire, voilà, on a atterri.
Moi, quand je vois des gens, en effet, qui, autour de moi, comme vous, Michele, dorment, alors qu'il y a un boucan, je me dis, mais comment ils font, quoi? Parce que vous ne prenez rien, Michele, vous n'avez pas un canapé calmant ou quoi? Non, même pas.
Non, rien du tout. L'appréhension, je pense que beaucoup de gens ne savent pas. À la limite, un avion, je ne sais pas que c'est comme dans les films, mais pourrait perdre ses moteurs. En Europe, bon, il y a moins de dangers. Il y a quand même beaucoup d'aéroports régionaux. Et un avion pourrait être capable de planer pendant au moins, je pense, 1 heure, 1 heure et demie. Donc ça aussi, je pense que c'est la peur de la panne, alors que, bon, en Europe, on n'a pas de soucis à ce niveau-là avec la multiplicité des aéroports régionaux.
Ouais. Bon, mais évidemment, par amour, vous avez pris l'avion beaucoup plus, donc une bonne motivation, parce qu'on va quand même parler de motivation, Marie-Pierre, en disant que c'est vrai que il y en a pour qui, c'est leur boulot ou
voilà,
ce genre
ici,
de choses.
C'est joyeux, c'est l'amour, il est porté.
Les vacances.
Quoique certaines circonstances familiales font que les vacances, c'est pas aussi joyeux que ce qu'on pourrait croire.
C'est
et justement, ça peut renforcer cette peur.
Donc c'est là-dessus qu'on va peut-être travailler justement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre parmi les peurs peut-être de qui sont peut-être pas déclarées ou que vos patients déclarent?
Alors il y a la peur d'être enfermé,
La claustrophobie, un peu claustrophobie.
Il y a la peur de mourir par l'étouffement. Ouais. Hein, donc l'avion s'écrase, je ne sais pas sortir, peur de mourir brûlé, peur de perdre le contrôle. Enfin, on l'a pas du tout. Donc à part accepter et faire
confiance.
Et faire confiance.
Ça aussi. J'ai besoin de tout contrôler. Voilà. Je fais pas confiance. Enfin, voilà. Bon, quel que soit le transport en commun, mais on va dire l'avion encore plus parce que c'est en l'air, quoi.
On n'est pas
sur le sol.
Voilà, pour comprendre ça, à part 4-5 ans de physique...
pour expliquer un peu...
Pour expliquer ça, donc il y a vraiment toutes sortes de peurs qui sont liées vraiment aux moyens de transport, mais il y a aussi des peurs plus subtiles, comme celle de quitter. Je prends de la distance, je prends de la hauteur, je quitte ma maison, je quitte mon travail, je quitte certains membres de mon entourage ou de ma famille, je laisse des choses derrière moi, tout ça aussi, ça influence énormément.
Ouais. Mais en voiture aussi. Enfin, bon, là, c'est peut-être... Ouais. Il y a peut-être une distance qui se fait en voiture.
Ouais.
C'est progressivement, peut-être.
Ouais. Et l'impact du décollage, décoller, qui peut vraiment transformer. Moi, c'est ce que je travaille avec les personnes, c'est transformer les perceptions et la représentation du fait de décoller, de s'en aller, et travailler dans un autoconditionnement comme Michele. Lui, il s'est conditionné à récolter des éléments qui vont faire que il s'apaise, il est porté et il s'endort. Et ça, ce sont vraiment des phénomènes d'auto-hypnose positive. Et donc ça, ça se travaille effectivement. Et on peut induire en hypnose et dans un travail comme ça, plus il y a de turbulences, et bien plus ça me fait entrer dans un état paisible et plus je dors profondément.
Il y en a que peut-être que c'est pour qui c'est comme ça. Allez, venez témoigner 070-23-33-23 SMS 30-63 pendant que Michele nous entend dans sa voiture à l'aéroport de Charleroi. À mon avis, quand votre compagne va descendre de l'avion et on va l'applaudir. Voilà, on applaudit. Venez vraiment nous dire que vous avez travaillé cette peur. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui se cache derrière cette peur. 30-63.
La vie du bon côté.
Oh, je vois même des pilotes qui nous envoient des messages.
Oui.
On va essayer d'en avoir un sur antenne, justement, pour savoir un petit peu ce qui se passe dans sa tête quand il voit. Est-ce qu'un pilote ressent, enfin, un pilote ne voit pas vraiment les gens monter dans l'avion, mais ce serait bien d'avoir des hôtesses de l'air aussi. Ouais, est-ce que ça doit se ressentir à force de voir des gens
en accompagnement monter, des pilotes en coaching professionnel pour travailler au niveau des tests, puisque les pilotes sont soumis plusieurs fois par an au passage de tests.
Ah oui.
Et donc aussi cette connaissance de l'envers du décor, moi beaucoup apaisée.
M'en doute.
Voilà, c'est quand même important de se dire que le pilote ou la pilote, si ça se dit, parce qu'il y en a quand même, ils sont soumis à des tests et que les compétences aussi bien connaissances techniques au niveau nerveux, au niveau psy, mais ils sont tout à fait fiables.
Bonjour Jacqueline.
Bonjour Sylvie. Bonjour Marie-Pierre, je crois.
Oui, c'est ça. Oui, vous avez énormément voyagé, Jacqueline.
Ah oui, là, j'ai fait l'Amérique, Cuba, Mexique, enfin tout. Il y a très peu de choses que je n'ai pas faites. Et toujours avec la peur au ventre. Donc au début, vraiment... j'avais appris dans toutes les langues la façon de dire j'ai peur, donc je ne peux même presque pas le dire parce que les hôtesses venaient vers moi en me disant ça va madame. Alors j'ai fait 2 ou 3 séances d'hypnose. Et bon, je marche pas trop à l'hypnose, mais ils m'ont quand même, ça m'a sauvée parce que le médecin m'avait dit quand tu as très très peur, tu fixes. Mais tu vois, par exemple, les sorties toilettes ou les trucs rouges, les lumières rouges, enfin, de le fixer, mais tout le temps, sans essayer des yeux, jusqu'au moment où l'angoisse part. Eh bien, je vous assure, ça marche.
Oui. En fait,
vous dites ça aussi pour Marie-Pierre.
Voilà, donc en fixant ce point qui est au-dessus de la ligne d'horizon, donc le regard est porté vers le haut. C'est un processus d'adduction hypnotique, donc s'appelle l'adduction de Brett, qui était un chirurgien et qui hypnotisait ses patients comme ça avant les interventions chirurgicales.
Ouais.
Donc le fait juste de maintenir les yeux grands ouverts, voire écarquillés, en fixant un point qui est vers le haut. Et donc, si on travaille en même temps avec la respiration et travailler avec des suggestions positives, on peut vraiment amener un état d'auto-hypnose qui va faire que on va rentrer dans l'apaisement.
Ok, donc ça c'est déjà un bon truc quoi. Vous avez fait, Jacqueline, vous avez fait plusieurs séances ?
Oui.
Plusieurs séances ?
Je ne savais pas que c'était fixé un point au-dessus, donc moi je fixais les toilettes ou vous voyez quelque chose de lumineux. Quoi.
Ouais, ouais.
Ben et vraiment je le fixais, je pouvais pas être distraite quoi. Et vraiment ça marche quoi.
Vous avez fait plusieurs séances, Jacqueline ?
Deux
séances.
Deux. Et après je n'ai plus l'occasion d'y aller parce que c'était loin, mais ça m'a suffi. Pour ça, en tout cas.
En général, combien de séances, Marie-Pierre ?
Très variable, mais parfois 2-3, si ça dépend un petit peu de ce qu'il y a en dessous.
Oui. Vous allez un petit peu gratter pour voir ce qu'il y a en dessous.
On évoquait très très rapidement, comme ça tout à l'heure, aussi les enjeux au niveau de la famille. Mais la peur de l'avion peut prendre une place phénoménale au sein de la famille, et il y a un tas d'interactions et de jeux entre guillemets qui se mettent en place au niveau relationnel.
Oui.
Et là, la peur prend une telle fonction, il y a de tels bénéfices secondaires derrière qu'elle peut parfois se lever et puis réapparaître. Mm-hmm. Donc là, il y a un travail plus profond, plus au niveau de la systémique familiale à mettre en place.
Ça y est, on a une ex-hôtesse de l'air qui veut bien témoigner. Et un pilote, voilà.
Super.
On va faire notre avion. Il ne manquera plus que le propriétaire d'un avion.
Voilà,
comme ça, on peut faire notre propre voyage, hein, tant qu'on y est. En parlant de voyage, tiens, j'ai dit que je ferais une petite relance par rapport à notre escapade à Utrecht. Sachez que nous allons faire une escapade. Hein, vous le savez, on fait des escapades régulièrement. Il ne faut pas prendre l'avion. Ah. Parce que justement, quand on fait des croisières, ben, je sais qu'on s'adresse à des personnes qui ont peur aussi de prendre l'avion. Enfin, celle la dernière qu'on a faite en Norvège, il ne fallait pas le prendre non plus, l'avion. Mais sachez que nos escapades, c'est vraiment pas loin. La prochaine, ce sera près d'Utrecht, un jet de pierre d'Utrecht. 3 jours, du vendredi au dimanche, donc avec 4 conférences, et ce sera la fin septembre, la fin du mois de septembre. Si vous souhaitez des renseignements, bah, envoyez-moi un mail, hein, je dis ça encore une fois, parce que c'est la dernière semaine de la vie du bon côté. Donc si vous souhaitez avoir des renseignements, envoyez-moi un email à laviedubonkote@rtbf.be, un SMS pendant l'émission, bien sûr, que je sache les lire sur mon écran, ou un message sur la page Facebook, et puis je vous donnerai un numéro de téléphone, tiens, parce que j'en aurai un de toute façon. De toute façon, je vais vite le rechercher, le numéro de l'agence avec qui nous nous sommes associés. Donc voilà, si vous voulez venir nous rejoindre à Utrecht, sans avion, voilà, sans avion, avec 4 conférences et pas mal d'ambiance et une vraie énergie de groupe, c'est vraiment un truc à faire, on sera une centaine de personnes. Je vous donnerai un numéro de téléphone. Bon, le 3063, si vous souhaitez intervenir, bien sûr, dans cette émission, et on va essayer de contacter l'ex-hôtesse de l'air et le pilote. Andrea Bocelli, avec toi, je partirai. Con te partiront. Partir comment ?
En avion.
En avion, bien sûr, puisque c'est le sujet du jour. Se libérer de la peur de l'avion, même si, comme je l'ai dit en début d'émission, statistiquement et rationnellement, l'avion est le moyen de transport le plus sécurisé. Eh bien, vous êtes nombreux. Il y a encore beaucoup de personnes, en effet, qui ont vraiment peur de l'avion. Et d'ailleurs, Dr Géo, d'ici une dizaine de minutes, viendra nous dire qu'il y a beaucoup de gens qui le consultent pour ça aussi. Mm-hmm. Eh ouais, c'est un docteur qui en sait quelque chose. Il parlera d'un casque anti-bruit. Je pense qu'il utilise ça, personnalisé à lui, avec sa musique à lui, oui. Voilà, pour être vraiment bien dans ces cas-là. Bon, on a notre pilote, c'est Bruno. Bonjour Bruno.
Oui, bonjour. Bonjour Sylvie, bonjour Maïté.
Bon, oui. C'est pas des Boeing. Oui, bah, c'est déjà ça, hein.
Oui.
Et technicien aussi, technicien. Vous êtes.
Technicien, oui, technicien à la aérienne d'abord et à la Sabena ensuite. Okay, Donc voilà, sur le gros porteur.
Bon, votre histoire, elle est géniale. Hein. Vous nous l'expliquiez par SMS en disant « Premier vol à l'âge de 6 ans, j'étais à la fois émerveillée et affolée par la flèche des ailes. Et je disais tout haut, l'aile va casser, on va tomber. » Donc vous suscitiez la peur chez les autres alors, tout petit.
Oui, je devais avoir effectivement 5-6 ans et c'était un vol pour Nice. Mes grands-parents m'emmenaient au carnaval de Nice. Et je me souviendrai toujours de cette flèche de l'aile, donc cette aile qui monte par rapport au hublot. Hein, et je disais, ça va casser, on va tomber. Et les gens dans la cabine disaient, la caravelle n'était pas très grande, les gens, mais faites-le taire. Donc les gens étaient paniqués.
Mais voilà, oui,
finalement,
ça
voilà,
se transmet.
Donc, Mais moi, je parcourais l'avion et je regardais. Et alors, lors d'un vol suivant, je crois que c'était l'année d'après ou peut-être 2 ans après, il y avait eu des gros problèmes avec le Boeing 107 à l'époque et les gouvernails. Et alors, même chose, cette fois-ci, je regardais plus l'aile. On nous aurait servi à la Sabena à l'époque un excellent repas. Et puis, le capitaine, lui, nous dit, enfin, par l'interphone, on a un problème, on retourne sur Bruxelles. Et à ce moment-là, l'hôtesse vient et prend mon merveilleux. J'étais en train de manger mon merveilleux et l'hôtesse ramasse mon merveilleux, mais sous mon nez, quoi. C'était... Et donc, il n'y avait plus du tout de questions de peur ou de panique ou quoi. Il y avait juste une énorme frustration de m'a piqué mon merveilleux.
Ah bah oui, ça, on pense plus qu'à ça. Et donc, vous êtes devenu celui que vous êtes aujourd'hui, hein, passionné d'avion,
oui.
Alors, malgré tout.
Voilà, et passionné d'avion, oui, tout à fait. Et donc, voilà. Mais c'était plus quelque part une vocation, quelque part. Ça a commencé comme ça, mais je n'ai plus jamais eu peur en avion. Et je ne dors même pas en avion. c'est rarissime quand je pique un somme, parce que je suis curieux de tout, je regarde tous les... J'entends les bruits, je regarde le travail des hôtesses, j'écoute les bruits de l'avion, mais ça c'est toujours... Et ça me permet aussi, ça me donne une autre concentration par rapport à ça. Mm-hmm. Mais je fais ça en voiture ou à moto, c'est la même façon, donc j'ai peut-être une autre approche en écoutant votre
invité.
Spécialiste invité aura certainement quelque chose à dire là-dessus. Mais le fait d'être attentif permet aussi de monopoliser l'attention et d'être peut-être un peu plus distrait par rapport à ça.
Marie-Pierre. Terminé, Bruno.
Le risque zéro n'existe pas, l'avion est un moyen de transport génial. Mais voilà, c'était juste un petit partage comme ça.
C'est super. Merci, Bruno. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça?
Effectivement, Bruno, il est attentif avec la connaissance. Tandis que celui qui a peur, il est attentif, et bien souvent sans la connaissance. Donc, c'est accompagné d'interprétations.
Mais c'est ça, il ne voit pas la même chose que Bruno.
Voilà, donc Bruno, il écoute, il regarde de façon professionnelle, et il apprécie que la personne qui est dans la peur, elle écoute, elle regarde avec son filtre de peur et de danger potentiel.
Évidemment.
Donc, effectivement, la peur, c'est une question de focalisation. Et donc, on revient aux techniques, fixer le point, etc. Où on va se focaliser sur autre chose que la focalisation qui amène cette auto-hypnose négative. On va pouvoir aussi travailler avec les odeurs. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut très fortement aider. Moi, ce qui a fait ma rechute, en fait, de peur de l'avion, c'est un jour, en montant dans un avion, je ne sais pas s'il grillait les toasts du pilote, mais en tout cas, il y avait une odeur
de pain brûlé. Brûlé.
Que moi, ça c'est...
Vous avez dit
traduit à brûler. Et donc, là, ça a vraiment été la panique. Il faut savoir que l'odorat est le seul sens qui n'est pas... c'est une information qui n'est pas traitée, rationalisée par le cerveau. Donc, ça passe directement.
On reviendra sur l'odorat, parce que j'ai envie d'avoir une ex-hôtesse de l'air qui est là aussi pour témoigner. Dominique, bonjour.
Bonjour Sylvie, bonjour Marie-Pierre.
Bonjour.
Vous l'avez été longtemps, Dominique, hôtesse?
10 ans.
10 ans. Alors, c'est
10
sûr
ans,
qu'il...
oui.
C'est sûr que vous avez...
Lexus Sabena.
Ok, oui. Vous avez bon dos, parce que je pense que vous devez gérer pas mal de choses dans un avion, notamment les peurs, Dominique, alors que c'est pas votre rôle quelque part, mais vous devez passer par ça aussi. Il vous reste des souvenirs marquants aussi de gens qui étaient...
Oui. Oui. Des personnes qui s'alcoolisent énormément par peur. Et qui, avec la pressurisation, on est quand même pas loin des 2000 mètres altitude en cabine. Moi, je parle de vol long courrier, parce que c'est ce que j'ai fait principalement.
Oui.
Et fatalement, non seulement deviennent malades, mais je pense que Marie-Pierre pourra en témoigner, l'alcool désinhibe dans un premier instant, mais dans un second instant, toutes les craintes reviennent en puissance 10.
Oui. Ça, on en a parlé, je me souviens, dans l'actualité la semaine dernière, Dominique, de toute façon. Mais sinon, à part ça, donc les gens qui n'avaient pas bu, on va dire, vous avez dû intervenir souvent pour essayer que ce soit des enfants, que ce soit des adultes, ou ça allait encore.
Les enfants sont souvent tributaires de la peur de leurs parents.
Vous le sentiez, ça? Vous sentiez justement, et c'est intéressant à dire, que les parents communiquaient les peurs.
Oui, parce que même des bébés, donc des pas loin de nouveau-nés, on avait des hamacs fixés dans les parois de l'avion pour que ces enfants dorment tout près de leurs parents. Mais je suis certaine que le comportement des parents, vous pensez, une maman qui prend son enfant dans ses bras, mais qui le berce d'une façon saccadée, l'enfant ressent tout. Merci. Moi, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que observez les hôtesses de l'air ou les stewards lors d'un vol. Croyez-moi, s'ils sont professionnels, qu'ils sont habitués, chez eux, leur faciès vous montrera si vraiment il y a raison d'avoir peur.
Oui, bon, ça ne va pas nous rassurer, parce que moi, je ne vais plus vous regarder alors par rapport à ça. Mais c'est bien de vous avoir eu, Dominique, en ligne, et d'avoir eu aussi Bruno, pilote privé. On y reviendra de tout ça, de toute façon, Marie-Pierre, juste après le flash de 14h, parce que Dr Géo, je ne sais pas comment il est venu, mais il est là, à l'heure, et il s'installe.
La vie du bon côté.
On rappelle que statistiquement et rationnellement, l'avion est le moyen de transport le plus sécurisé. Mais bon nombre de personnes ont peur de le prendre, bien entendu. Je dis ça avant que vous ne m'informiez de la chose, parce que Docteur Géo, là, j'étale ma culture. Je suis au courant. Je sais que c'est le moyen le plus sûr au niveau des transports en commun, si on peut dire. Bonjour à vous, docteur. Vous êtes venu en avion
jusqu'ici ? Bonjour Sylvie. Bonjour Marie-Pierre. Oui, tout à fait.
Oui,
mon jet privé, évidemment.
Il est posé dans la cour.
D'accord.
Sur la croix. C'est pour vous qu'on a fait une croix comme ça, en fait, au sol. Je me demandais, mais c'est quoi cette grande croix ?
D'habitude, j'ai un hélicoptère, mais cette fois-ci, je suis venu en avion. Il n'y a pas de problème.
Donc, la prochaine fois, vous allez vous poser sur la croix, alors ?
Ah oui, et oui. Et il y en a d'autres qui l'ont fait avant de se poser sur la croix. Alors, c'est vrai que la peur de l'avion, on a quand même avant les vacances comme ça, on a pas mal de demandes. Docteur, vous voulez pas me donner un petit calmant avant de prendre l'avion ? Effectivement, souvent on prescrit un petit truc quand les patients plutôt prennent un avion tous les deux ans, tous les trois ans, c'est pas très grave de prendre une petite pilule pour se calmer. Ça vaut mieux que de hurler dans l'avion et de faire une crise d'hystérie, certainement. Mais pour les vrais voyageurs qui souffrent de la peur dans l'avion, finalement, les techniques d'hypnose donnent des bons résultats. Ils arrivent à bien sortir du problème. Et alors, moi, j'ai deux techniques. Dans l'avion, je m'arrange toujours pour m'endormir avant qu'on ne démarre. C'est assez efficace. Je n'ai jamais vu ni un atterrissage, ni un décollage d'avion. Parce que je m'arrange toujours pour dormir à ce moment-là.
Sans rien prendre.
Et ça, c'est une technique. Et puis, il y a quand même des... C'est aussi les bruits qui inquiètent finalement, ces bruits de vibration d'avion. Et j'utilise, moi, un casque anti-bruit. Alors, vous savez que dans les avions, c'est en fait, on a un taux de décibels qui est très élevé et qui est même à la limite du tolérable pour les oreilles. Et donc, une des techniques, c'est de rentrer un peu dans sa tête. Alors, moi, j'utilise un casque anti-bruit avec de la musique classique. Et on n'entend pas à la limite que l'avion démarre, qu'il décolle. Et donc, ça, c'est une petite technique. Et je voulais quand même dire aussi que je vois beaucoup de casques dans les avions, je vois beaucoup de jeunes et je vois des têtes qui dodelinent au son de la musique. Et je voulais quand même rappeler, là, c'est la période des concerts pour les vacances, il faut quand même faire attention. Là. On a examiné, des chercheurs de Rotterdam ont examiné 3116 jeunes, et on se rend compte que l'audition est occupée à diminuer de manière catastrophique chez les jeunes qui portent des casques audio, qui se promènent dans la rue avec ça, mais très souvent, pendant des heures, qui conduisent avec ça, qui vont au concert, et là c'est le seul moment où ils l'enlèvent, alors qu'il ferait mieux de le mettre pour atténuer les bruits. Et donc ces concerts, c'est effrayant au niveau des oreilles. Donc ne vous mettez pas après des baffles de préférence, et puis si vous avez l'occasion, de mettre carrément des bouchons anti-bruit. Faut pas hésiter, ça existe, ça coûte pas très cher, c'est une petite grille en métal dans le bouchon, et ça permet quand même de rattraper un peu le danger de tous ces bruits. Et donc ça nous éloigne un peu de l'avion, mais enfin pour l'avion, c'est vrai que un petit casque anti-bruit, éventuellement une petite tisane avant de partir, mais faites attention parce que vous risquez de devoir faire pipi dans l'avion, mais une petite tisane avant de partir, un petit calmant éventuellement, mais c'est vite passé, on peut se raisonner tous, et puis l'hypnose certainement. Voilà, Sylvie.
Bon, ben voilà, très bien, tant mieux, parce que notre invité est hypnothérapeute, donc de toute façon, c'était aussi le but et l'objectif de notre émission du jour. Merci, docteur. Demain, mercredi, nous parlons, des difficultés qu'ont les parents à laisser partir leur enfant en séjour résidentiel. Comment calmer les angoisses et comment profiter des avantages, parce qu'il y a des avantages aussi, on en parlera demain. À demain, docteur.
À demain, Sylvie.
Jusqu'à 14h30 sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré.
Avec Marie-Pierre Preud'homme, elle est formatrice, consultante, coach, hypnothérapeute. Je vais mettre votre site internet sur la page Facebook de l'émission, parce qu'il y a déjà pas mal de personnes qui nous disent « on veut contacter votre invité » justement pour pouvoir se libérer de cette peur de l'avion, voilà, qui nous donne la boule au ventre. Il y en a quand même beaucoup, ça je vois. Et donc vous allez pouvoir la contacter de toute façon. Elle est sur Liège.
Oui, c'est Esneux. Ça, en province de Liège.
Non, plus Esneux.
Je confonds mes communes. C'est périphérie liégeoise.
Bon, voilà, oui. Le Grand Liège.
Grand Liège.
On va dire le Grand Liège. Et vous faites une conférence là-dessus, ou bien vous
faites quoi ? Donc, il y a un atelier. atelier qui a lieu après-demain où l'objectif, c'est se libérer de la peur de l'avion en une soirée. Donc, on va travailler, entre autres, en hypnose. Et il y a aussi une séance d'hypnose qui est remise qu'on peut emmener pour pratiquer avant de prendre son vol et pendant son vol.
Oula. Et c'est combien de personnes, l'atelier?
Moi, je prends maximum 12 personnes. D'accord. On travaille en petit groupe. C'est jeudi soir.
Jeudi soir. Chez vous.
Dans mon centre de formation à Jemep.
Jemep. Jeudi soir. Vous allez avoir toutes les informations. Je vais mettre vraiment le lien sur la page. Bon, alors, c'est sûr que juste avant 14h, c'est bien parce qu'on a eu vraiment des chouettes témoignages. On a eu un pilote. Eu une ex-hôtesse de l'air qui sont venues nous dire. Et c'est l'hôtesse de l'air, hein. C'est Emmanuel qui nous a dit. Non, c'est vous. Mais c'est vous qui avez parlé de l'odeur. Oui, l'odeur de pain grillé.
Voilà.
Moi, il y a une odeur que j'aime pas du tout, c'est les plats réchauffés, quoi. Ça,
les pizzas,
je peux manger beaucoup de bonbons dans l'avion, mais alors manger le plat, ça, je trouve que l'odeur, c'est pas terrible. Qu'est-ce qui s'est passé?
Un peu maison de repos, quoi.
Je sais pas, il y a une odeur. Oh, voilà. Et il faut travailler sur les odeurs parce que je sais que vous m'avez dit en préparant l'émission, on va quand même leur dire, Sylvie, que c'est important de respirer des huiles essentielles.
Oui. Donc, ce que j'expliquais, c'est que moi, dans mon parcours où j'ai eu très peur de l'avion, je m'en suis libérée et puis j'ai rechuté. Ma rechute était liée à une odeur. Donc, une odeur, je ne sais pas, de pain grillé, de toast. Où là, ça a vraiment été incontrôlable. Vraiment une panique qui s'est saisie de moi. Et donc, par la suite, j'ai un petit peu investigué, j'ai compris. Et à nouveau, je me suis reguérie. Et maintenant, tout est vraiment OK. Donc, quand on sent une odeur, il y a vraiment une association très directe qui se fait au niveau du cerveau et cette association va générer un état, soit un état de bien-être, on pense la Madeleine de Proust, ou alors un état de panique, les odeurs de brûlé. Donc ce qu'on travaille, c'est une association avec des suggestions hypnotiques et une odeur. En huile essentielle, on va travailler par exemple avec la lavande et en associant les suggestions hypnotiques, l'apaisement et cette odeur-là, et un petit ancrage kinesthésique, dont un ancrage, c'est un petit geste qui va rappeler une sensation. Ça peut être simplement former un rond avec le pouce et l'index et pousser l'ongle dans la pulpe du doigt. Donc, il y a une sensation.
Du sien, hein.
Voilà. Si vous avez un voisin qui a envie de collaborer ou qui est intéressant, je ne sais pas. Pourquoi pas, ça distrait. Ça va distraire pendant le vol.
Vous faites rien, là? Non, hein, faites rien. Bon,
vous faites rien, passez-moi votre doigt.
On m'a dit, je vais planter l'ongle dans votre pull.
Pardon.
Pull de votre doigt. Ah bon?
Et donc, cette association-là, un doigt, le vôtre ou un autre, une odeur et certaines suggestions et un travail préalable en hypnose, eh bien, simultanément, de façon très très directe, la personne va être reconnectée à un souvenir agréable, à une sensation agréable et elle va induire, comme par exemple Michaelé, un état de sommeil, pourquoi pas, ou un état de bien-être. Moi, j'ai travaillé sur moi en associant le fait de voler avec l'idée de quitter ce qui est lourd pour moi ou ce qui est préoccupant. Et donc, maintenant, décoller, c'est... Waouh, c'est le soulagement et c'est sentir la puissance de l'avion qui est aussi associée à certaines sensations justement de contrôle, de puissance et de choisir de laisser certaines choses pour s'envoler vers d'autres. Donc on sait vraiment réinterpréter absolument tout ce qu'on vit en avion pour le vivre de façon sereine. Et quel que soit le nombre d'années qu'il y a derrière nous avec cette peur, voire cette phobie, on peut vraiment se déconditionner. Je tiens vraiment à passer un message d'espoir,
de confiance par
rapport à ça. Parce que prendre l'avion de façon confortable, qu'est-ce que c'est précieux, hein ? C'est vraiment très, très précieux.
Alors, on a découvert un mot grâce à vous, Sophie, et grâce au message que vous venez de nous envoyer. Bonjour tout d'abord.
Oui, bonjour.
Bonjour
Sophie. Vous êtes émétophobe.
Oui, en fait, c'est la phobie. Des gens qui vomissent, en fait.
La phobie des gens qui vomissent.
Voilà, tout à fait. Donc, mais du coup, c'est une phobie qui est très difficile à gérer parce qu'elle ne dépend pas que de soi. Donc, forcément, du coup, je n'ose pas prendre l'avion, pas par la faute de l'avion, mais le fait que beaucoup de gens voyagent mal, donc ils sont malades, donc je me retrouve dans un endroit confiné, je n'ai pas de moyens d'échapper, donc...
C'est fou, ça.
Voilà, ça me poursuit ma vie, parce que, voilà, tout ce qui est parc d'attraction, c'est la même chose.
Je vais reprendre la conversation, Sophie. Écoutez-moi, mais c'est parce qu'on vous entend pas très bien. Vous avez le main libre, hein, certainement. Donc la phobie, elle a pas la phobie des avions, mais elle était hémotophobe. Donc il est impossible de prendre l'avion ou même d'aller dans des parcs d'attractions. Donc c'est ce qu'elle nous disait dans son message. Ça lui gâche vraiment la vie.
Peur que d'autres vomissent, ouais. Peur de vomir.
Je ris parce que ça m'est déjà arrivé de voir ça, évidemment, dans des avions. C'est pas marrant, hein. Mais c'est sûr que je respire mes mains quand c'est comme ça.
D'où l'intérêt d'un petit flacon d'huile essentielle.
Oui, c'est toujours mieux parce qu'en effet, c'est. Mais
surtout sur un transatlantique.
Ah oui. Quand c'est... Mais vous aviez jamais entendu non plus de ça. Alors cette peur-là.
Si, mais je.
Vous savez pas que l'on l'appelait comme ça.
Parce que j'étais dans cette réflexion de l'avion, donc je voyais pas trop le lien. Mais en effet, ça fait faire partir des circonstances.
C'est... Mais ça se travaille aussi. J'ai quand même envie, Sophie, de vous reprendre juste. Vous l'avez jamais travaillé, cette peur-là, cette phobie-là?
J'ai jamais été consulter quelqu'un. Ce que j'ai fait souvent, c'est consulter des sites internet et tout. Oui. Et en fait, ça passait par plusieurs phases. En fait, il y a certaines personnes qui nous aident à travailler ça en nous confrontant en fait à notre phobie. Mais ce qui, moi, me choquait, parce que c'est vraiment une phobie énorme qui partage ma vie depuis des années. Donc, je me voyais mal mon médecin ou la personne me suivre arriver avec un sac avec du vomi ou je ne sais pas quelle mise en situation il comptait faire. Donc, non, j'ai pas vraiment été consulter quelqu'un, mais de ce que j'ai lu sur Internet, peu de choses me semblait pouvoir m'aider. Enfin, je ne sais pas. Je peux peut-être me tromper. Je n'en sais rien, en fait.
Marie-Pierre.
Si, on travaille ça de façon progressive et des désensibilisations, justement, par hypnose, qui sont beaucoup plus soft que certaines techniques comportementales, puisqu'on travaille ça en hypnose. Mais derrière cette peur, il y a vraiment, enfin, la peur de ce qu'il y a à l'intérieur de soi, la peur de ce qui peut échapper. Ça peut être couplé à des problèmes d'anorexie, et parfois l'un masque l'autre, où on va avoir peur de manger certains aliments par peur de les vomir. Mais ça se travaille, si, très certainement ça se travaille, ça c'est certain.
Ouais. Je vois des messages sur la page Facebook. JP nous dit: ce petit message pour vous dire que notre maman avait toujours eu envie d'aller en Israël. Nous nous sommes donc cotisés pour lui offrir afin qu'elle puisse réaliser son rêve. Elle est partie à l'âge de 60 ans avec notre belle-sœur, et ce sans aucune crainte. Elle en a même été ravie. Félicitations pour votre émission. Donc juste dire qu'en effet, une première fois, un premier vol en avion peut se faire plus tard. Hein.
Ici, on voit le contexte où elle est portée par sa famille, et c'est ça qui prédomine. C'est le fait d'être portée par sa famille et la joie d'aller.
C'est ce que Nina disait tout à l'heure.
Exact.
Hein. C'est la destination. Voilà. C'est vraiment se focaliser sur ce qui nous attend de l'autre côté.
Oui.
Quoi.
Oui.
Ouais. Ouais. Voilà. Le bonheur et la destination.
Oui.
Alors qu'on dit toujours parfois le bonheur et le chemin. On n'arrête pas de dire ça.
Mais aussi.
Le bonheur et le chemin, pas ici.
Oui.
Le bonheur ici, c'est la destination. Je vois aussi le message de Frédéric, et nous dit encore un super sujet. Petit témoignage, je suis infirmière dans un service médico-technique. Certains patients paniquent lors de l'entrée dans l'appareil car ils vont se sentir étouffés. Soit ils se découvrent claustrophobes, soit ils le sont déjà. J'adopte une attitude rassurante, je les écoute avec empathie en expliquant correctement la procédure de l'examen. Je leur explique le phénomène physique lié à la peur, hormonale, fuite, ou faire face et les symptômes liés, le pouls qui s'accélère, etc. Et les causes possibles liées à un vécu souvent d'ordre émotionnel ou physique, conscient ou inconscient. Je les accompagne avec bienveillance, sans forcer, je les invite à aller voir un thérapeute pour leur apprendre à gérer eux-mêmes ce trouble qui parfois empoisonne leur vie quotidienne, bien que parfois miracle, le problème est réglé en une séance.
Ouais. Oui, et j'ai des infirmières qui se forment chez moi en hypnose, justement, pour pouvoir accompagner les patients ainsi, que ce soit des enfants ou des adultes, parce que la peur des examens médicaux, dont des IRM, ça peut vraiment être fort handicapant. La dernière fois que j'ai travaillé ça avec une personne, on a fait ça en une séance, où elle, pour elle, quand elle était dans l'IRM, en fait, elle était dans sa piscine en train de flotter. Mmh. Et donc, elle se réjouit d'aller passer un prochain examen.
Visualisation, médical. Alors. On y reviendra dans un instant. Continue à témoigner. 070 23 33 23. 30 centimes par minute. SMS 30 63. 50 centimes par message envoyé. Maître Gims et Vianney, c'est maintenant. Gims et Vianney avec passer la même, bien important d'avoir la bonne musique aussi dans ses oreilles. Tout à l'heure, docteur Géo, on a parlé, ça fait partie en effet des pouvoirs relaxants, quoi.
Oui.
Qu'ont la musique, voilà, un bon bouquin.
Oui, des musiques qui induisent vraiment la relaxation avec des ondes spécifiques, donc ça c'est vraiment intéressant. On les introduit dans les séances d'hypnose et donc ça fait un impact qui est vraiment très très apaisant.
En préparant l'émission, on m'avait dit aussi leur dire qu'ils peuvent se raconter des histoires, voilà. Des belles histoires.
Alors, le cerveau ne fait pas de différence entre la réalité et une histoire qu'on se raconte.
Ah.
Donc si par exemple, vous vous imaginez que vous êtes dans cet avion et que c'est la parfaite sécurité parce que sur Terre, il se passe quelque chose qui n'est pas très joyeux. Et donc, pendant que vous êtes là, dans l'avion, vous êtes en parfaite sécurité. Et vous pouvez même imaginer que vous roulez sur des nuages et qu'il y a des petits anges qui sont en train de passer l'avion d'aile en aile. Et ces petits anges sont là pour veiller sur vous. Évidemment, on sait bien que c'est une histoire, mais se la raconter, comme on la raconterait à un enfant, fait que l'inconscient peut vraiment... Voilà, il achète ça et c'est bon, il s'apaise. Donc se raconter des histoires, peu importe que ce soit vrai ou pas.
Mais je vous imagine, encore une fois, peut-être, accompagner nos auditeurs, Marie-Pierre,
oui.
Les réunir
oui.
Au tout début de l'avion. Vous racontez une histoire comme ça et tout le monde
tout
vous écoute.
Fait. Exact.
Ce serait pas mal comme ça.
L'atelier que je fais, c'est ça, quoi. Hein. C'est vraiment se préparer, mais on peut le faire en vol. Hein.
Oui.
Je sélectionnerai les destinations qui m'intéressent.
Oui, ça aussi. Oui. Il va pas partout. Hein. Walter, est-ce que vous avez besoin de quelqu'un comme Marie-Pierre pour vous accompagner ou bien vous n'avez pas peur du tout?
J'ai pas peur du tout.
Ah, c'est
super.
Bien. Pas peur du tout. Votre premier vol, c'était en 98?
98.
Et vous aviez?
J'avais plus de 50 ans.
D'accord. Et qu'est-ce qui a fait qu'à 50 ans, vous dites, ça y est, je suis prêt, je prends l'avion?
Ben, j'ai ma femme qui est, de Madagascar.
Ouais.
Alors, on est parti en voyage pour la première fois en 98.
Ok.
Enfin, moi, je suis parti pour la première fois en 98 à Madagascar.
D'accord. Donc, vous aviez un objectif, évidemment, un bel
oui.
objectif d'aller là-bas. Et ça s'est bien passé? Vous n'aviez aucune appréhension, rien du tout?
Aucune appréhension, Sylvie. Écoute, quand je suis monté dans l'avion, c'est-à-dire que j'avais demandé pour moi être près d'un hublot.
Oui, pour voir.
Je ne dors pas facilement. Mmh. Alors, pour 11h, 3 quarts de vol, sans escale, j'étais près du hublot, je regardais, je voyais les nuages, je voyais le bout de l'aile, et voilà, j'ai jamais eu aucune appréhension.
Ok. Bon, mais vous l'avez pas repris depuis?
Si. Si.
Ah oui, c'est
une première. On est reparti 5 fois depuis.
Ah oui, d'accord.
Et cette fois-là, c'était mon premier vol.
Ok, bah oui, on s'en souvient toujours de son premier vol, hein.
Oui.
Je pense.
Alors, quand je suis rentré dans l'avion, un petit moment après, bien sûr, dans les airs, je veux dire, il y a l'hôtesse qui est passée dans l'avion pour demander si on avait besoin de quelque chose, une boisson ou quelque chose. Je dis, madame ou mademoiselle, excusez-moi, aujourd'hui, c'est mon premier vol. Ah ben, bienvenue à bord, qu'elle me dit alors, monsieur. Et un petit moment après, elle est revenue, elle m'a donné une petite bouteille de champagne.
Ah oui. Mais il y a des petits malins qui vont se dire « Ah ben je vais dire que c'est mon premier vol, tiens.
Voilà. »
Non,
comme ça,
non.
Bon, évidemment, ce sont des vols long courrier aussi.
Oui.
Hein. Vous n'auriez
voilà.
pas ça dans un
vol. 11h, 3 quarts de vol pour la première fois, Sylvie, écoute, je ne sais pas, mais il faut le faire quand même. Hein.
Et oui. Vous n'avez pas eu droit à la petite musique à l'atterrissage,
si.
Alors?
Ah,
vous
si, avez... si, tout à fait. Même avec des écrans et tout, oui.
Ouais.
Je suis parti avec quelle association?
Quelle compagnie?
Quelle compagnie, pardon, excuse-moi.
Oui.
Quelle compagnie?
C'est qui?
Air France.
Ah, ils sont chers.
Ça, c'est... Si je peux conseiller quelqu'un pour partir dans... pour les cours, les longs cours...
Ça ne m'étonne pas que vous avez du champagne. Hein. Bon, d'accord. Okay.
Voilà.
Parce que j'ai... Merci beaucoup, Walter. J'ai rien dit. Hein. C'est vous, hein.
Je n'ai rien dit non plus.
J'ai rien dit. Je dis que la vérité. Moi. De toute façon, je... Là. Merci beaucoup. Ben voilà, premier vol à 5 ans, à plus de 50 ans, hein, plus de 50 ans, 98. Bon, allez, dans quelques instants, on énumère encore toute une liste de choses.
Oui. Hein,
toute une liste de choses à faire, bien sûr, si vous avez de l'appréhension. Je suis en train de mettre les informations concernant l'atelier que donnera Marie-Pierre Prudhomme, notre invitée ce jeudi, si vous avez peur de l'avion. Et je donne un numéro de téléphone aussi, puisque vous me le demandez, pour les informations concernant l'escapade à Utrecht, sans avion. Vous venez avec votre moyen de transport. Et on peut faire aussi du covoiturage. C'est possible, parce qu'on essaie de rassembler vraiment les personnes qui sont dans la même région. Vous contactez Amandine au 0471 99 99 19, 0471 99 99 19, pour avoir tous les renseignements. L'hôtel qui nous reçoit, c'est fabuleux. Les conférenciers, bien sûr, qui seront là. Moi qui sera présente avec vous, parce qu'on est vraiment là pour vivre et prendre la vie du bon côté pendant 3 jours. Voilà, encore un petit témoignage peut-être, et puis surtout un rappel de tout ce qu'il y a lieu de faire pour ne pas être perturbé par ce vol en avion.
13h-14h30, la vie du bon côté sur Vivacité.
Avec Marie-Pierre Prudhomme, elle est hypnothérapeute. Elle nous donne des bons conseils depuis le début de cette émission. Elle fera un atelier 12 personnes à Jemeppe, région de Liège, ce jeudi soir. Allez sur la page Facebook pour avoir les renseignements. On a parlé des odeurs. Respirer des huiles essentielles. Vous avez parlé de la lavande,
oui.
La menthe poivrée.
Oui, oui, hein, aussi.
La menthe poivrée. Se raconter des histoires, vous l'avez dit aussi, parce que le cerveau aime bien,
normalement, oui.
Qu'on lui raconte des histoires, peu importe que ce soit vrai ou pas, c'est vraiment
exact.
Des histoires, le cerveau ne fait pas la différence. Travailler sur l'expiration,
voilà.
Sur la respiration aussi.
Voilà, ouais. Donc quand on est en situation de stress, on a tendance à diminuer la course du diaphragme, donc ouais. Qui monte et qui descend quand on respire, et plus on est stressé, plus la course du diaphragme va être restreinte, ce qui va amener comme message au cerveau une information de panique. C'est comme s'il y avait un réel danger. Et donc, le cerveau se met dans un mode, s'il y a un danger, mais il faut encore plus ralentir la course du diaphragme, il faut sécréter de l'adrénaline, et donc génère le stress. Donc, pour casser ce cercle vicieux, il y a plusieurs techniques à mettre en place. C'est de travailler avant tout sur l'expiration, donc d'évacuer un maximum d'air résiduel des poumons. Souffler, c'est vraiment être dans, si on peut sentir le mouvement, c'est rentrer le ventre et faire en sorte que le nombril aille à la fois vers la colonne vertébrale et vers l'intérieur des côtes, comme si on avalait le ventre, ce qui va permettre vraiment d'expirer à fond. Alors, quelques expirations, et puis après ça, de travailler en cohérence cardiaque, de façon aussi préventive. Donc, c'est un petit peu quelque chose avec lequel je reviens fréquemment ici, mais cette pratique de la cohérence cardiaque, 3 fois 5 minutes par jour de façon anticipative et avant de prendre le vol et pendant, juste quand on est en attente pour décoller, prendre cette petite application et vraiment se focaliser, suivre cette petite boule qui monte et qui descend, va avoir un effet non seulement de concentration, de focalisation, mais un effet vraiment purement physiologique sur le fait de diminuer et de ne pas faire naître même le stress. Alors si c'est associé à des suggestions qu'on a travaillées préalablement en hypnose, plus écouter sa séance ou avec son thérapeute, on demande d'enregistrer une séance pour l'avoir pour son vol, plus l'odeur, la senteur qu'on a choisie, plus son petit ancrage, là toutes les conditions sont réunies, ne pas boire d'alcool, parce que comme l'exprimait Emmanuel, effectivement, d'abord il y a un effet de désinhibiteur et tout m'est égal, et puis... Parfait. très très rapidement, c'est l'effet inverse qui se produit. Donc voilà, travailler avec des techniques naturelles de défocalisation et de focalisation, c'est surtout se focaliser sur autre chose plutôt que de nourrir cette peur.
Eh ben merci. Je pense qu'on a quand même fait le tour de pas mal de choses. Et n'oubliez pas d'aller à sa séance, à elle, ce jeudi soir. Merci beaucoup, Marie-Pierre.
Un grand merci.
Si vous souhaitez réécouter l'émission, c'est évidemment possible via Ovio en podcast à partir de tout à l'heure et dans quelques instants. Ne bougez pas, c'est Aller-Retour qui s'installe.
Tout Vivacité à la demande est sur rtbf.be/ovio. RTBF Ovio, libérez vos envies.